votre santé, votre avenir.
Au micro, Khalil Gay. Votre santé, votre avenir commence maintenant. Bienvenue sur Votre santé, votre avenir. Nous sommes en République démocratique du Congo, plus précisément dans la capitale Kinshasa, où Votre santé, votre avenir est arrivé pour se faire l'écho d'une campagne de réparation des fistules obstétricales organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Mais qu'est-ce que la fistule obstétricale? La fistule obstétricale est une lésion résultant de l'accouchement généralement causée par un travail prolongé et difficile, parfois de plusieurs jours, sans intervention obstétrique pratiquée en temps voulu. Les effets sont souvent dévastateurs. Les bébés meurent dans la plupart des cas et la femme souffre d'une incontinence chronique, incapable de contrôler l'écoulement de l'urine ou l'excrétion des matières fécales. Elle est souvent abandonnée par son mari et sa propre famille, voire bannie de sa communauté. Docteur Kawen Deborah, point focal fistule, UNFPA Kinshasa.
Le Fonds des Nations Unies pour la population a organisé une campagne de réparation des fistules avec le professeur Magé Gay, qui est un professeur de l'université Cheikh Fata Diop de Dakar, qui a fait le déplacement à Kinshasa pour travailler avec les chirurgiens congolais. Et ils ont pu, au cours de ces 48 heures, réparer plus de 15 cas de femmes porteuses de fistules. Donc c'est une bonne collaboration sud-sud entre un professeur sénégalais et le professeur congolais pour donner le sourire et redonner la vie à ces femmes porteuses de fistules qui est une maladie commune dans tous les pays en voie de développement et principalement les pays démocratiques du Congo où beaucoup de femmes souffrent de cette maladie. Tout simplement puisqu'elles n'ont pas pu bénéficier de soins pendant l'accouchement. Elles ont présenté des complications, mais elles n'ont pas été prises en charge correctement. En fait, c'est un problème de non-respect des droits reproductifs, puisque la femme a des droits et ces droits doivent être respectés. Et parmi ces droits, c'est l'accès aux soins des services de qualité. Les femmes congolaises, malheureusement, dans la majorité des cas, n'ont pas accès à ces soins de qualité. C'est pour cela que le taux de décès maternel, le taux de mortalité maternelle est très élevé dans notre pays. Et à côté des femmes qui meurent, il y en a aussi beaucoup parmi elles qui présentent des fistules.
Madame Jenny Keita, représentante de UNFPA à Kinshasa en RDC.
Pour le Fonds des Nations Unies pour la population, avoir la chance et le privilège d'accompagner les pays pour réparer des fistules obstétricales ou autres de jeunes femmes, c'est un moment extraordinaire parce que ça permet à la société de pouvoir bénéficier des talents et des forces vives de ces femmes-là.
Pouvez-vous nous expliquer un peu le rôle de UNFPA dans les phases de prévention, de traitement, la réparation, et aussi dans la phase de réintégration, c'est-à-dire une fois que la fistule est réparée et que la femme se trouve dans la possibilité de réintégrer la société. Alors que faites-vous pour que cette femme réintègre tranquillement la société?
La question de la prévention se fait dans le cadre de notre programme général de santé maternelle et du bien-être de la femme. Donc la phase que je prendrai, c'est qu'une fois que la fistule survient, c'est la phase du recrutement. Aller chercher les femmes qui souffrent de fistules obstétricales. Parce qu'en général, comme c'est une indignité, elles se cachent, on ne les voit plus. Donc il y a la sensibilisation, nous assurer qu'elles peuvent venir vers les centres hospitaliers. Et une fois qu'elles viennent là, avant la réparation, il y a la prise en charge médicale, savoir si elles ont les éléments nutritifs adéquats pour pouvoir subir une intervention, si elles ne sont pas trop pauvres, parce que vous savez, ça résulte de la pauvreté, la fistule. Hein, c'est un des grands signes. Donc, une fois qu'elles sont réparées, la réinsertion est la dernière phase. D'abord, qu'elles ne restent pas trop loin du centre médical pour qu'il y ait un accompagnement psychologique, qu'il y ait un accompagnement social et aussi qu'il y ait des associations qui nous appuient pour permettre de leur donner un métier si elles n'en ont pas. Et quand elles ont, leur donner peut-être un petit pécule, un petit moyen pour lequel elles peuvent se servir pour créer une activité génératrice de revenus. Et ça, c'est la partie la plus importante, parce que quand, une fois que cela est fait, elles peuvent retourner et elles deviennent pour nous des role models, comme on dit en anglais, des ambassadrices, et qui vont pour conseiller les autres femmes dans leur communauté pour savoir comment mieux se protéger et aussi nous ramener des cas qui existeraient dans la société. Vous savez, je dis, nous sommes à 20 ans de l'agenda du mandat de UNFPA, les questions de population et de développement. Et nous rentrons de plein pied dans l'agenda 2015 avec le développement durable et la résilience des populations au changement climatique, aux conditions les plus néfastes pour leur bien-être. Alors, le rôle de UNFPA en RDC est de plusieurs ordres. Le premier, qui est le mandat corporate, je puis dire, le mandat des mandats, c'est de nous assurer de la collecte des données. Parce que sans données, sans information, on ne peut pas savoir où trouver les femmes qui souffrent de fistules, on ne peut pas savoir où sont les jeunes pour pouvoir nous en occuper. Donc, il y a ça, il y a le recensement de la population qui est programmé par la RDC, ça va être le second recensement, il y a longtemps qu'il n'y en a pas eu, et nous espérons que ça pourra avoir lieu dans les conditions les plus optimales. L'autre question, c'est le planning familial. La RDC compte énormément de jeunes filles et de jeunes gens. Et vous savez, si on veut pouvoir bénéficier du dividende démographique, on doit s'assurer que les jeunes sont en pleine possession de tous leurs moyens. Santé d'abord, santé sexuelle et reproductive. Ensuite, bien-être social et individuel. Et bien-être communautaire pour nous assurer justement que le pays puisse utiliser à bon escient cette jeunesse-là. Et enfin, il y a un aspect qui est très important, qui est la question des violences basées sur le genre. Et vous savez que la campagne mondiale de la fistule s'insère là-dedans. Parce que souvent, ce sont des filles mariées trop précocement, trop jeunes, et donc qui ont des grossesses qui arrivent trop tôt, et elles n'ont pas le corps qui est adapté à cela. Et évidemment, quand elles font un travail trop long, ça crée des fistules. Ça crée donc ces trous qui laissent passer, ou des urines, par les mauvais canaux. Et là, ça pose un problème. Donc le mandat dans ce pays, véritablement, la violence, mais pas seulement sous son aspect violence sexuelle, violence dans le cadre des conflits. Parce que nous le savons, la violence, ce n'est pas que ça. La violence a des composantes sociales, psychologiques, dans la vie de tous les jours, dans le comportement de tous les jours qu'il faut éduquer, qu'il faut changer. Parce que le mandat de UNFPA est universel. Et ce mandat universel, c'est la mise en œuvre des droits humains. Basique, la mise en œuvre des droits humains basiques. La santé sexuelle et reproductive est un droit humain universel. Et nous avons de la chance. Nous avons de la chance parce que les autorités de ce pays sont absolument en accord avec cela. On sort à peine de la conférence ici sur la planification familiale où véritablement il y a eu un engagement de l'État du Congo pour accompagner cette question de planification familiale, de mettre des ressources nationales de côté dans ce cadre-là. Et je pense que c'est vraiment encourageant. Donc UNFPA avec ses partenaires, parce que comme vous le savez, on ne travaille jamais tout seul. Et il y a un groupe que UNFPA préside ici qui s'appelle le H4+, qui concerne non seulement UNFPA qui assure le secrétariat, mais l'UNICEF, l'Organisation Mondiale de la Santé, le PAM, l'ONU SIDA, l'ONU Genre, l'ONU Femmes. Et je crois que ça, c'est important, ça démontre combien les agents des Nations Unies veulent travailler ensemble, en synergie et en cohérence, pour donner une réponse commune et une réponse cohérente aux questions de développement sanitaire et social de ce pays. Et ça, j'en suis très fière, parce qu'ici, le groupe H4 marche très très bien. Mais je ne saurais terminer sans dire que, évidemment, nous sommes accompagnés par le Canada ici pour H4, mais de par le monde, vous avez la Suède aussi qui accompagne H4 dans d'autres pays, et la France qui le fait dans d'autres pays. Donc c'est avec nos partenaires véritablement que nous nous assurons de la prise en compte des bien-être des populations de la République démocratique du Congo.
Je me tourne vers vous, professeur Magege. Vous êtes à la tête de cette mission. Vous êtes chirurgien, urologue, spécialiste des réparations de fistules. Et vous êtes arrivé en RDC justement dans le cadre de cette campagne de réparation. Parlez-nous un peu de système. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous travaillez avec les chirurgiens locaux?
Mais merci beaucoup. J'ai le privilège de venir à Kinshasa pour contribuer avec le Fonds des Nations Unies pour la population à faire l'état des lieux de la prise en charge des fistules dans ce pays. Nous avons eu le privilège de rencontrer beaucoup de personnes intéressées à cette prise en charge, en parlant du milieu académique, le doyen de la faculté, les chirurgiens, les différents hôpitaux impliqués et surtout les centres de traitement et de formation. Il se trouve aujourd'hui que le nombre de cas de fistules semble très important encore au niveau du pays. La prise en charge n'est pas particulièrement structurée dans l'ensemble du territoire. Les partenariats et collaborations qui devaient être développés pour rendre beaucoup plus facile cette prise en charge ne le sont pas encore, à mon avis, comme il se devait. Et nous avons commencé aujourd'hui à opérer dans ce centre qui est l'hôpital Biamba Marie Mutombo, excellent centre d'ailleurs, pour contribuer à travailler avec les différents acteurs de Kinshasa donc dans cette dynamique-là. Les campagnes de réparation sont toujours des prétextes pour la formation. Et qui parle de formation parle d'état des lieux, voir quelles sont en fait les capacités des acteurs locaux, comment ils travaillent habituellement, quelles sont les bonnes pratiques qu'ils ont dans la prise en charge, quelles sont peut-être les mauvaises pratiques qu'il faudrait abandonner. Donc c'est le fait d'évaluer en fait leur niveau de professionnalisme dans le domaine de la fistule qui nous permettra de tracer plus tard peut-être des voies pour une meilleure formation plus structurée à l'échelle nationale. La formation est très importante dans la prise en charge de la fistule obstétricale. D'une part parce que les techniques de réparation sont diverses et variées. Cela ne s'acquiert pas très facilement. Cela demande une certaine exposition et surtout le contact de chirurgiens relativement chevronnés qui permettent de naviguer les acteurs dans les différentes phases de la fistule. En fait, la diversité des formes de fistule impose un certain entraînement pour pouvoir arriver à bout. Premièrement, les cas simples. Ça, habituellement, il est très facile au bout de certaines périodes d'exposition d'y arriver. Mais nous avons des cas un peu plus complexes et des cas beaucoup plus compliqués. C'est la raison pour laquelle la formation ne s'arrête jamais. Les personnes qui sont dans ces pays et dans certaines provinces, parce que je sais très bien que des réparations sont effectuées dans des provinces comme le Maniema à Kindu, dans le Kivu à Goma, le sud Kivu à Panzi, en Bandaka dans l'Équateur, ici à Kinshasa, à l'hôpital Saint-Joseph où nous avons notre collègue et ami Dr Dolores, et dans cet hôpital Biamba Marie Mutombo où les fistules sont réparées. Mais comme ils l'ont si bien exprimé eux-mêmes, il y a des limites parce qu'ils ont besoin qu'on les aide à acquérir les stratégies permettant de venir à bout des fistules un peu plus compliquées.
Comment appréciez-vous la participation des chirurgiens locaux congolais dans cette campagne de réparation des fistules?
Mon appréciation de la compétence des chirurgiens locaux est très bonne. Pour certains, je les connaissais déjà, je suis déjà venu, je les ai vus travailler. Et je pense que reconnaître ces limites est un début de compétence. Eux-mêmes nous ont dit, nous avons des limites techniques. Nos limites techniques s'adressent d'abord aux cas de fistules qui ont des incontinences résiduelles. C'est le cas de ces femmes opérées. Les fistules sont fermées, mais elles ne sont toujours pas sèches parce que le système de clôture n'est pas étanche. Ils nous ont dit, nous avons des problèmes pour les cas beaucoup plus complexes touchant le col de la vessie. Donc, ils ont exprimé leurs besoins. Ils ont identifié leurs limites et ça, je pense que c'est très honnête. Et c'est en cela que nous allons maintenant nous atteler pour essayer de leur donner les rudiments complémentaires leur permettant de faire face à ces problèmes.
Avez-vous eu à enregistrer des cas de fistules traumatiques, fistules dérivant de violences sexuelles par exemple?
Pour le moment, non. Les cas que nous avons vus ce matin sont des cas de fistules obstétricales pures. Nous avons quand même des cas plus ou moins limites qui sont des cas de malformations congénitales que nous allons gérer. Il est évident que la région, égard à tous les troubles qu'on a connus, est peut-être le centre où l'on parle beaucoup de fistules traumatiques. Mais c'est essentiellement vers l'est, dans le Kivu, où il y a beaucoup de violences sexuelles faites aux femmes. Et ces violences peuvent parfois, malheureusement, se compliquer de fistules obstétriques, de traumatiques.
Que faut-il faire pour sensibiliser davantage les femmes africaines sur la question de la fistule?
En fait, je pense que les facteurs socioculturels qui président à la survenue d'une fistule sont en réalité des facteurs qui entraînent d'autres problèmes au niveau de la société. Quand on parle des mutilations génitales féminines, c'est la même chose. Quand on parle des violences faites aux femmes, c'est la même chose. Donc cet aspect doit être extrêmement pris en compte. Et pour qu'on puisse vraiment assurer un continuum de soins, nous ne devons pas seulement nous concentrer. C'est vrai que nous sommes des chirurgiens, donc essentiellement orientés à la réparation, à la formation et au suivi et évaluation. mais il faut aussi travailler dans la prévention.
Docteur Lemine Amar, vous êtes chirurgien aussi. Vous co-animez d'ailleurs cette campagne de réparation des fistules ici en RDC avec le professeur Makegei. Parle-nous un peu de la prise en charge.
La prise en charge des fistules obstétricales doit être holistique, allant de la sensibilisation à l'identification, la réparation et la réintégration communautaire dans les cas où cela s'avère nécessaire. Et cette prise en charge holistique doit tenir compte du besoin de prise en charge systémique. C'est-à-dire que la fistule est considérée comme étant un dysfonctionnement ou une insuffisance du système de santé. Et c'est la prise en charge des différents déterminants de la santé qui va améliorer la réponse aux fistules obstétricales.
Sur votre santé, votre avenir. Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook et n'oubliez pas de nous donner votre numéro de téléphone si vous souhaitez participer à l'émission.
Mathieu Kabongo, mon rôle à moi, c'est essentiellement d'aider les gynécologues qui chapeaute le programme de fistules vésico-vésicales à l'hôpital. Je les aide pour les aspects d'urologie et de chirurgie digestive viscérale. Parce qu'en fait, les dames qui viennent avec les fistules vésico-vaginales nécessitent parfois qu'on décharge leurs intestins, par exemple, pour éviter que les selles n'aillent infecter l'endroit où l'on doit opérer. Et ça, c'est le cas où il y a une fistule vésico-vaginale associée à une fistule recto-vaginale. Recto-vaginale, ça sous-entend une fistule entre le rectum et le vagin. C'est ce qui fait que les selles sortent par le vagin. Alors, il faut assécher le vagin le temps que l'opération du gynécologue puisse se faire et cicatriser sans aucun problème. Donc, dériver, faire une colostomie, ça, c'est un aspect de chirurgie viscérale que moi, je fais. S'il faut réimplanter les urétères, dans le cas où on a une fistule urétéro-vaginale. Donc, entre l'urétère, qui vient, c'est le tuyau excréteur des urines qui vient du rein, qui va vers la vessie, des fois, ça peut s'aboucher d'une façon ectopique dans le vagin. Des fois, c'est la personne qui a fait une césarienne, qui a ligaturé l'urétère avec le vagin plus bas, ce qui fait que, par une sorte de complication, l'urétère peut s'ouvrir d'une façon traumatique dans le vagin. Alors, pour remettre l'urétère, l'enlever de sa sortie dans le vagin, le remettre maintenant sur la vessie, c'est un aspect urologique pur que les gynécologues ne savent pas réaliser. À ce moment-là, moi, je viens poser ce geste-là. C'est ça un peu mon apport dans l'équipe. J'ai eu l'occasion de faire au moins plus de 200-300 cas de fistules vésico-vaginales avec des urologues belges, bien sûr, en association avec les gynécologues et les chirurgiens congolais que nous sommes, à l'hôpital Saint-Joseph où j'étais avant, et maintenant ici à l'hôpital Bien-Bamari. Entre des mains expérimentées, ce sont des complications très rares. Au contraire, ce sont des complications qui nous viennent de la périphérie, des milieux ruraux, où il n'y a pas suffisamment de médecins rodés à la chirurgie obstétricale, entre autres les césariennes, ou bien la chirurgie gynécologique pure du genre hystérectomie pour une ou l'autre raison. Ce qui fait que ces genres de médecins-là, ou parfois des infirmiers qui opèrent dans des milieux reculés du pays où il n'y a aucun médecin, commettent parfois des impairs comme ça. Mais dans de grandes équipes, ici à Kinshasa, dans les milieux favorisés, c'est très rare, disons moins de 5% ou 10% de cas.
Je m'appelle docteur Armand Lumingu. Hier, nous étions avec le professeur Magay Gueye, Serine, c'est un professeur d'urologie, expert aussi en réparation des fistules. Il y a eu échange avec ce professeur. Et nous avons parlé de voir comment est-ce que nous pouvons monter des stratégies efficaces pour réduire ou bien éradiquer la fistule en Afrique. Et parmi les stratégies montées, il y avait le renforcement des capacités. On a abordé aussi les points de réinsertion sexuelle et sociale de toutes ces femmes-là. Parce qu'il ne faut pas se contenter seulement de la chirurgie. Il faut aussi voir comment ces femmes-là, qui autrefois vivaient dans la honte, dans l'isolement, et après la chirurgie, après être guéries, qu'est-ce que nous devons faire pour réintégrer ces femmes-là dans la communauté. C'est un point aussi qui était abordé. Et par après, nous avons vu les malades ensemble. Le rôle que j'ai joué ce matin, c'était d'abord dans la sélection des cas. J'ai examiné toutes les malades au nombre de 16 cas. Et depuis ce matin, nous sommes au bloc. Comme c'est un professeur, c'est dans le cadre du renforcement des capacités, nous l'assistons au bloc et nous apprenons aussi de nouvelles techniques. Par rapport à notre niveau de participation à cette campagne, nous disons qu'il y a des bons chirurgiens aussi au Congo, puisque nous sommes départagés en deux salles. Il y a une équipe qui opère avec le prof Maguey. Dans l'autre salle, il y a aussi deux experts, docteur Nemoussou et moi, docteur Lumingu, et les apprenants. Donc, c'est vraiment un niveau que j'ai apprécié. Et les profs aussi à valider, à accepter que nous opérons aussi dans l'autre salle. Et s'il y a des difficultés, que nous l'appelons. Au total, nous avons eu à recenser 16 cas. Et parmi les 16 cas, il y a 4 fillettes chez qui on a 2 fistules irétéro-vaginales, congénitales, 2 des fistules recto-vaginales. Les autres là, ce sont des fistules vésico-vaginales, vésico-utérines, irétéro-vaginales.
La fistule est évitable. C'est malheureusement un indicateur de mauvaise couverture sanitaire. Partout où les grossesses sont bien suivies, où les accouchements sont bien assistés, où la césarienne est très facile, il n'y a plus de fistule. Donc, en réalité, en travaillant sur des stratégies de santé de reproduction permettant un bon planning familial, un bon espacement de naissance, un bon suivi des grossesses permettant de prévoir quelles sont celles qui peuvent se compliquer pendant l'accouchement et d'anticiper ces complications en proposant la césarienne à ces femmes, en ce moment, je pense que la fistule va disparaître de nos régions.
C'est l'enjeu de la coordination de qualité, c'est-à-dire c'est l'implication des différents acteurs intervenant dans le cadre de la santé maternelle de manière conjointe, complémentaire et non juxtaposée, verticale ou parallèle. Et c'est la qualité de cette coordination qui permet d'avoir une réponse appropriée et adéquate aux besoins de relèvement du système de santé, donc de réponse convenable à la problématique de la fistule obstétricale. En Afrique, c'est malheureusement cette pathologie est un indicateur dans les systèmes de santé qui sont faibles. Dans les systèmes de santé développés, les fistules ne sont pas d'origine obstétricale.
Madame Jenny Keita, représentante de UNFPA à Kinshasa, en RDC.
Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de voir des femmes avec le sourire qui ont été guéries parce que réparées, parce qu'ayant subi une intervention chirurgicale qui leur permette de pouvoir se réinsérer dans la vie. Ça, pour UNFPA, c'est exceptionnel. Et toutes les femmes qui ont été opérées aujourd'hui ont eu un succès de 95%. Et je trouve que c'est un espoir pour le partenariat que nous avons mis en place avec l'hôpital Mutombo et également avec la République démocratique du Congo. Ce que nous pensons faire, c'est d'essayer de ramener, de faire converger les cas les plus complexes de fistules obstétricales dans cet hôpital pour que, quand nous avons des missions internationales, comme celle en ce moment du professeur Magege, de pouvoir non seulement enseigner aux médecins congolais les techniques les plus complexes, mais également nous assurer aussi que ces personnes soient prises en charge totalement et de manière positive.
Votre santé, votre avenir, c'est terminé. Nous étions à Kinshasa, à l'hôpital Biamba Marie du Congo, pour suivre pour vous la campagne de réparation des fistules obstétricales organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Miko Khalege, au revoir et à la semaine prochaine. Yeah.